Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marine Digabel.
Bonjour. Qui sait qu'autrefois, la détention en prison n'était qu'une simple attente avant l'exécution de la véritable peine. Une perspective radicalement différente de celle qui prévaut désormais. Aujourd'hui, la fonction de la prison est multiple. Enfermer les condamnés, c'est d'abord protéger la société civile. Mais la privation de liberté constitue aussi une sanction en tant que telle. Et puis, la prison est envisagée comme un outil de réinsertion. Dans ces conditions, la récidive apparaît comme un échec du système carcéral. Un récidiviste, c'est un ancien détenu que son séjour en prison n'a pas remis dans le droit chemin. Si la récidive criminelle est rare, elle choque particulièrement l'opinion publique, surtout quand les déficiences de la justice sont mises en lumière. Alors la volonté de réinsérer la minorité de récidivistes potentiels est-elle illusoire ? Mesure phare de la prévention des récidives, le bracelet électronique mobile lancé en août 2006 entend bien faire de cette réinsertion une réalité. Mais jusqu'où peut-on aller dans le contrôle de cette réinsertion ? Le bracelet électronique mobile est-il un outil efficace ou plutôt une mesure de surveillance destinée à rassurer l'opinion publique ? Pour parler en détail du fonctionnement et surtout des enjeux du bracelet électronique mobile, nous accueillons dans notre studio le président de l'Académie des sciences morales et politiques, André Damien. André Damien, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Première question, un bracelet électronique fixe existait déjà avant l'introduction du bracelet électronique mobile. En quoi diffère-t-il exactement, outre le fait que l'un est fixe et l'autre mobile ?
Il diffère beaucoup, n'est-ce pas ? Vous avez insisté sur la non-récidive et ce faisant, vous démontrez d'une manière simple, ce que tout le monde sait déjà, le système inefficace qu'est la prison en France. Nous n'avons pas de système pénitentiaire viable. On n'en a pas.
D'accord.
On en a eu, mais faute de crédit, faute d'imagination, quand on pense que Tocqueville a écrit ce magnifique livre, Le système pénitentiaire aux États-Unis, dans lequel il montre le système progressif, etc. Nous n'avons plus rien. Nous avons des gens qui sont de braves gens, les gardiens de prison, ce que dans le vocabulaire spécifique on appelle les matons, qui sont des gens braves, mais qui ne sont pas des rééducateurs, c'est pas leur métier. Ils sont là pour garder avec le moins sauvagerie possible, et pour laisser surtout les détenus se débrouiller entre eux, dans la mesure du possible, sans qu'il se soit obligé d'être mêlé à l'affaire. Donc nous avons un système de démission de l'administration vis-à-vis du système pénitentiaire. Le résultat, c'est que la détention provisoire, c'est-à-dire avant la peine qui augmente tous les jours, dont Outreau est un merveilleux exemple. Ils se sont payés, je crois, de 2 à 4 ans de détention provisoire parce que le juge a été trompé d'embranchement dans l'affaire. Eh bien, il est évident que nous avons un système pénitentiaire qui ne marche pas et on cherche tous les moyens pour diminuer la durée des prisons. Toutes les instructions de la chancellerie, du garde des Sceaux, des lois sont diminuer au maximum la prison, le temps d'emprisonnement, vérifier son utilité, sa nécessité, vérifier qu'il faut bien qu'il y ait un danger pour la société, j'entends pour la détention préventive, provisoire,
d'accord,
avant, un danger pour la société, un risque pour l'instruction, communication avec les complices, etc., et une incertitude qui se représente le jour du procès. Dans la détention définitive, celle qui a été prononcée par une peine, eh bien, on est extrêmement ennuyé aussi, parce que si vous mettez des peines trop longues, comme font les Américains, 100 ans de prison, c'est une rigolade, ça n'existe pas. Et si vous mettez des peines qui ne sont pas effectivement exécutées, les gens entrent dans la prison avec la sensation de la quitter bientôt, et par là même, la moitié de l'effet terrifiant de la prison disparaît. Alors que le délinquant est placé entre l'effet gratifiant du crime ou du délit, c'est-à-dire d'abord le bon tour à jouer à la société, C'est pas, c'est une fois qu'on a fait quelque chose, c'est un exploit qui vous rend un type sensationnel, respecté, ou bien alors l'effet gratifiant immédiat, c'est-à-dire vous avez volé une montre, ben vous avez une montre que vous n'aviez pas avant.
D'accord. Bon. Et le bracelet électronique représente-t-il une alternative ?
Le bracelet électronique va représenter une aide. Qu'est-ce que c'est que le bracelet électronique ? C'est un système, un substitut à la détention. À la détention provisoire ou définitive, grâce aux moyens électroniques et téléphoniques et radio modernes, notamment le GPS, que nous ne connaissions pas il y a quelques années. Donc il y a quelques années, on ne pouvait que mettre en prison, fermer la porte à double tour, ou bien l'ouvrir peu à peu, d'abord pour une libération définitive, pour une libération conditionnelle, on mettait des conditions qu'on ne pouvait pas dont on ne pouvait pas vérifier l'application, ou bien on lâchait les gens en fin de journée, on les reprenait en fin de journée, on les lâchait pour qu'ils commencent à reprendre l'apprentissage du travail. Donc c'était extrêmement compliqué et complexe, et un système difficile. Grâce à des progrès modernes, on a inventé maintenant le bracelet électronique. Alors on en a inventé deux. On a inventé le fixe. Le fixe avait un certain intérêt, c'est-à-dire qu'on permettait à quelqu'un d'avoir une surveillance d'un appareil chez lui, c'est pas, de la manière dont on sort de la prison en fin de journée pour aller travailler, en fin de matinée pour aller travailler, et on revient en fin de journée pour se faire pointer par le surveillant. Là, il n'y a plus besoin de pointage, vous avez le bracelet électronique fixe qui vous dit il est rentré, il n'est pas rentré. S'il est rentré, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas rentré, on déclenche les opérations de police, on le recherche, on l'arrête et on le remet en prison éventuellement. Donc, c'était un système déjà intéressant, mais c'était un système assez primitif, puisqu'on ne pouvait vérifier que la présence dans un lieu déterminé. Dans une pièce.
Et le soir seulement, par exemple.
Et le soir seulement, par exemple, n'est-ce pas ? Dans la journée, c'est difficile. Quand vous l'avez dit d'aller travailler à déposer des cajots dans les halles pour un patron, c'est difficile de savoir s'il y est. Il n'y a pas de moyen. Grâce au bracelet électronique, on a inventé ce système qui est apparu déjà dans des pays étrangers, aux USA, depuis une vingtaine d'années. Au Canada et surtout en Colombie-Britannique en 1987, en Angleterre en 95, Pays-Bas 95, la Suède un peu antérieure à nous 94, l'Australie 95 et la Nouvelle-Zélande également 95. Alors en France, c'est pas une invention immédiate le bracelet électronique, puisque c'est la loi du 19 décembre 1997 qui a permis à des condamnés qui purgent leur peine en dehors du milieu carcéral, d'avoir, grâce à un système fixe de surveillance, la vérification que la porte est bien ouverte pour qu'ils retournent en prison ou qu'elle est bien fermée pour qu'ils ne s'en évadent point.
D'accord.
Le système actuel, qui est lié au GPS et à tous ces avantages qu'on a maintenant sur les autos pour chercher son chemin, eh bien, ce système, c'est le bracelet électronique Poville, a été créé par la loi du 12 décembre 2005 et un décret du 30 mars 2006. Ça a été inauguré par un exposé du garde des Sceaux qui est le promoteur de ce système. Il y tient beaucoup parce qu'il estime qu'il y a là un substitut à la prison qui est de nature à préserver la dignité de l'homme et à ne pas être dans l'atmosphère fétide des prisons où on apprend plus de mauvaises choses que de bonnes et où on prépare plus les coups d'après qu'on ne regrette ceux d'avant. Alors Pascal Clément a donc, pendant un discours du 1er août 2006 au centre de semi-liberté d'Audourdin, il a expliqué ce que c'était que ce placement sur surveillance par bracelet électronique mobile, et on va donner les initiales, comme on fait toujours. Il n'y a plus de juge d'application des peines, il y a des JAP, il n'y a plus de juge des libertés, il y a des JL, et là c'est le PSEM, placement sous surveillance par bracelet électronique mobile. Les mots importants, c'est placement, surveillance, électronique mobile. Alors, combien y a-t-il de personnes concernées ? Dans le fixe, il y en avait 1500. Mais 1500 à un certain jour. 1500 au total. Ce qui fait que Si vous prenez les gens qui ont été dès le début, on a 10 000 personnes qui ont été soumises au régime du bracelet électronique fixe. Et aujourd'hui, le garde des Sceaux voudrait qu'on arrive à 3 000 en 2007. Actuellement, il y en a 900. Avec le bracelet électronique mobile, il n'y a plus de difficulté. On suit la personne toute la journée. C'est d'ailleurs ce qui va poser à certains bons esprits une difficulté sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors le coût, c'est pas gratuit, le bracelet électronique mobile. C'est quand même 30 euros par jour. Alors ce qu'il faut faire comme comparaison, c'est que la prison, c'est 60 euros par jour.
Et quand on dit 30 euros par jour, c'est le prix du matériel ou le prix de la surveillance
également ? C'est le prix de la surveillance. Je crois que le matériel est beaucoup plus, surtout quand il est fait en grand nombre d'exemplaires, est beaucoup plus banal. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder également les GPS de voitures, qui étaient une espèce de fantaisie coûteuse jadis. Aujourd'hui, tout le monde peut s'en payer un. C'est pas quelque chose d'inabordable. Donc on a quand même réussi à avoir un matériel qui est beaucoup moins coûteux. Mais il faut quelqu'un qui surveille. Et par des moyens électroniques, c'est-à-dire que ça se met à sonner dès que vous êtes sorti du secteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme système ? Bien, vous avez des systèmes d'entrée et de sortie. Vous avez des systèmes d'interdiction d'aller dans certains endroits.
D'accord.
On dit par exemple à un pédophile qui n'a pas le droit de s'approcher des écoles, de telle école ou de toutes les écoles, à moins de tant de mètres. Bon, dès qu'il s'approche à plus de tant de mètres, clac, ça se met à sonner, on le saisit. Et vous avez les cafés, on peut interdire les cafés. Et dans les pyromanes, on leur a interdit de pénétrer dans des forêts. Alors, parce que c'est une clause spéciale, donc le pyromane qui a le droit d'aller dans les écoles ou au café n'a pas le droit d'entrer dans une forêt.
D'accord.
Et dès qu'il entre dans la forêt, le système est un système intelligent, on dit hop, ça se met à sonner. À ce moment-là, ça peut passer partout. Et donc, on arrive à substituer le bracelet électronique à un certain nombre de mesures carcérales. Lesquelles ? D'abord, à la détention provisoire, qu'on appelle autrefois préventive, c'est la détention qui, pendant une instruction. Donc, au lieu de mettre quelqu'un sous mandat de dépôt en prison, vous le laissez avec l'obligation de porter un bracelet électronique. Qui c'est qui décide ça ? Le juge d'instruction propose, avec l'avis, la décision du juge des libertés et l'avis du parquet et de la défense. Donc vous avez un système qui est parfaitement cohérent sur le plan juridique et qui fait que, au lieu de mettre quelqu'un en détention provisoire, comme c'est si fréquent, eh bien, vous avez un système de substitut à la détention provisoire. Vous avez un substitut à la libération conditionnelle. La libération conditionnelle, quelqu'un a été condamné à une peine, on le libère en lui mettant des conditions. Conditions de travail, conditions de vivre dans un lieu décent, etc. Ces conditions, c'est le juge d'application des peines qui les vérifie, qu'on appelle le JAP, comme on appelle le truc le PESM, et le JAP a posé donc des conditions, mais il est évident que la liberté conditionnelle est beaucoup mieux vérifiée par un bracelet électronique que par un autre système. Vous avez la liberté cette liberté assure une réinsertion plus aisée.
Mais est-ce que le bracelet suffit à assurer cette réinsertion ?
Non, le bracelet ne suffit pas, il garantit les possibilités de réinsertion.
D'accord.
C'est-à-dire que, au lieu de vous laisser en prison, tranquille, accroupir, et à prendre des mauvais exemples, et à coûter cher à la société, vous avez la possibilité, mais vous avez, c'est pas une influence sur le cerveau, hein, on vous change pas la tête, mais vous avez la possibilité de rester libre, sans l'opprobre que comporte la prison, et d'essayer de vous réinsérer avec un travail que vous trouvez, dont l'employeur ne peut très bien ne pas savoir que vous êtes avec un bracelet électronique. Sauf si les obligations liées à la surveillance étaient telles qu'on ne peut pas ne pas les dire à l'employeur. Vous avez, dans l'aide des services sociaux, qui est donnée dans ces conditions, et qui peut fonctionner parfaitement quand le bracelet électronique se met à couiner parce qu'il a constaté quelque chose de pas normal. Vous avez dans les peines de prison, vous avez toutes celles qui sont assorties du sursis. Le sursis fait que la peine n'est pas exécutée. Mais on peut donner des conditions au sursis. Et donc, le sursis peut entraîner l'obligation du bracelet électronique. Et donc, vous avez une surveillance assez grande. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que il faut une décision judiciaire pour pouvoir imposer à quelqu'un le bracelet électronique. On peut pas lui imposer comme le boulet des Vagnards, le boulet de Jean Valjean, qu'on a imposé jadis aux détenus. Au forçat.
D'accord, donc il faut le consentement de l'intéressé.
D'une part, mais deuxièmement, c'est moins humiliant que le boulet, puisque ça se voit pas, ça ne gêne pas. C'est un espèce de bracelet qu'on porte au pied, avec une espèce de boîte de la taille d'un téléphone portable, que vous portez à la ceinture. On peut pratiquement ne pas le remarquer, n'est-ce pas ? Si on a des pantalons longs, et une chaussette qui couvre le bas de la jambe, le mollet, vous ne remarquez pas ce bracelet du pied, et vous n'avez pas de raison de remarquer cette espèce de petit portefeuille que vous avez autour de la taille, et qui est la centrale qui marche avec l'appareil. En réalité, le bracelet électronique fixe est destiné, à mon avis, à disparaître. C'est un régime qui est un peu primitif, en fonction de l'état de la science. C'est-à-dire que ça suppose un émetteur stable, donc dans une pièce, de laquelle on ne s'éloigne pas. Alors, il faut regarder que les cas sont pas innombrables. Vous pouvez pas aller faire des courses, n'est-ce pas, dans un prise unique, ou dans un grand marché. Vous êtes obligé de rester auprès de l'appareil, sinon vous coupez le contact, il se met à couiner. Donc, en réalité, c'est un système qui a son efficacité, puisque vous assurez qu'au lieu d'être dans une cellule derrière une clé que tient le gardien, vous avez à peu près la même garantie, puisque l'homme ne peut pas, ou la femme ne peut pas s'évader, elle est près de l'émetteur, etc. Mais voyez que ce système, qui est efficace, est quand même très primitif et ne peut pas être appliqué partout. Alors que le mobile vous donne une totale liberté de mouvement, mais cette liberté n'est qu'apparente, puisqu'en réalité, vous restez soumis à un contrôle, et ce contrôle, s'il est négatif, peut entraîner la révocation de ce système et l'incarcération ou la réincarcération de celui qui a été condamné à de la prison. Donc, je pense que le bracelet électronique mobile, celui que le garde des Sceaux, Pascal Clément, a proposé et exposé au centre de semi-liberté d'Audourdin le 1er août, et qu'il a fait voter par la loi du 12 décembre 2005, est un système qui correspond bien à l'étude des systèmes étrangers et au progrès de la technique que nous avons vu notamment en matière de guidage automobile avec le GPS. Alors c'est un système dont on peut se demander si il respecte la dignité de la personne humaine et si ce n'est pas assimilable à ce boulet du forçat qui l'empêchait de bouger. Je réponds cela, c'est qu'il est moins contraignant d'avoir un bracelet électronique qui vous situe que d'être en prison fermé à double tour. C'est évident que le système qui suppose une décision de justice avec l'acceptation du prévenu, enfin du futur, de celui qui aurait dû être détenu, et quand même, d'autre part, la durée n'est pas éternelle, c'est 2 ans renouvelables. Alors, ça aboutira comme système à une diminution de la population carcérale. Or, en France, ce qui est très ennuyeux, c'est l'augmentation de la population carcérale actuelle. Nous avons de plus en plus de besoins de prison, on n'a pas assez de prison, et on ne peut pas y placer les gens, puisqu'on ne peut pas où les mettre. Ou alors on les met à 2, 3, 4, ce qui on a connu à d'autres époques, et notamment à la Libération, et c'est un système qui est très mauvais, parce que les détenus arrivent à former une petite société entre eux qui s'auto-commande et qui est extrêmement contraignante, en tout cas dangereuse.
Mais alors les prisons comptent environ 60 000 détenus aujourd'hui, est-ce que 3 000 bracelets c'est suffisant ?
Non, pas tout de suite, mais en quelques années, c'est expérimental, 3 000 en 2007, c'est déjà un bon score. Ça montrera que le système fonctionne, qu'il est viable au point de vue financier, 30 euros au lieu de 60, et si ça marche bien, comme on peut l'espérer, on l'appliquera d'une manière beaucoup plus grande. Et je pense que on pourra à ce moment-là appliquer la prison à ceux qui en ont besoin, et non pas aller garder indéfiniment des gens en détention provisoire, comme ce fut le cas à Outreau, ou dans des longues peines qu'on n'arrive pas à... où on ne sait pas que le faire, que leur faire exécuter. Autrefois, dans les prisons, on travaillait. Bon, les travaux forcés, c'est des travaux forcés. Bon, le résultat est épitable, minable, puisque la nationale 1 de Cayenne a été construite. Ils ont fait 1 km en un an. C'est tout ce qu'ils ont pu faire, puisqu'ils n'étaient pas outillés pour. Ils n'avaient aucune volonté de travailler. Et il fallait en plus les surveiller attentivement. Donc les travaux d'ordre carcéral sont très mauvais, d'autant que on se servait pour des petits travaux de concessionnaires qui actuellement, étant donné le coût de la main-d'œuvre, ont intérêt à les donner à des gens à l'extérieur. C'est plus simple. Pour faire des pinces à linge, des choses comme ça. Bon, des petits trucs très simples qui ne doivent pas être dangereux, etc., etc. Donc, on va réussir à diminuer le nombre des détenus. La prison ne sera plus ce pourrissoir qu'elle est actuellement. Les durées de détention seront beaucoup moins importantes qu'elles ne le sont actuellement. Et on aura véritablement, on peut espérer avoir un système parfaitement cohérent. Donc, alors, je pense que le système doit bien fonctionner.
Vous avez dit tout à l'heure que le bracelet ne suffisait pas à assurer la réinsertion,
non,
mais qu'il permettait de la garantir. Quels sont les autres éléments qui permettent d'assurer une réinsertion réussie ?
Pour une réinsertion, il faut d'abord que la personne qui sort de prison ou qui n'y est pas mise retrouve ou trouve un logement et un travail. S'il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas de travail, c'est les ponts ou c'est la tentation permanente de recommettre les mêmes crimes qu'avant, ou les mêmes délits. Donc il est évident que ce sont deux conditions fondamentales, le travail et un endroit où se loger. Alors, ça c'est les services sociaux qui peuvent s'en charger. Il est évident que la période n'est pas toujours facile pour arriver à trouver logement et travail. D'autant que beaucoup de délinquants appartiennent à des milieux un peu désaxés, dans lesquels la vie familiale a commencé à claquer, avec le départ de l'épouse ou du mari d'ailleurs, les enfants placés à l'assistance publique, plus de logement, etc., les ponts et toutes ces promiscuités qui ne sont pas bonnes et qui donnent l'idée de refaire des coups qu'on a d'ailleurs pu méditer en prison avec de co-détenus qui... rêvent, gambergent et ont des idées.
Donc on trouve ses complices en prison.
On trouve ses complices en prison, et d'ailleurs, celui qui est passé en prison un certain temps a acquis une expérience qui lui vaut des galons dans le milieu auquel il veut s'intégrer ou il va se réintégrer. Alors, un député, qui est un ancien magistrat, M. Fenech, a inventé une proposition de loi dans lequel un suivi plus long serait envisagé par le bracelet électronique après l'exécution de la peine.
Un suivi de combien de temps ?
Il n'a pas dit, mais ça pourrait être permanent. Alors, moi je ne suis pas d'accord parce que j'estime que, d'abord, en matière de détention provisoire, c'est évident qu'il ne peut pas y avoir de suivi après. Il y a la peine qui est prononcé, où l'homme est coupable ou il n'est pas coupable. S'il n'est pas coupable, c'est terminé. Et si un homme est coupable, eh bien, il y a des libérations conditionnelles, sursis avec mise à l'épreuve, etc. Mais je pense qu'à un moment où il a terminé sa peine, il ne faut plus s'en occuper. Sinon, nous arrivons au monde de Big Brother, c'est-à-dire où on est sous contrôle permanent pendant toute une vie, parce qu'il y a eu un jour une déviance. Non, il faut qu'une peine se termine elle-même à la date qui a été prévue par les juges, avec des modalités. Le juge peut vous donner une libération conditionnelle, il peut vous donner un sursis de 5 ans, etc. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble, et dans l'ensemble légal, ne rajoutons pas à la loi autre chose que ce qu'il y a dedans.
Vous avez parlé de trouver un logement, un travail pour se réinsérer. Est-ce que les condamnés bénéficient d'une aide aujourd'hui pour réussir à remplir ces conditions ?
Ils bénéficient des services sociaux, pas plus que d'autres. C'est-à-dire que le fait d'avoir été condamné de sortir de prison n'est pas un badge de sécurité ou de sauvetage. Donc, il y a des services sociaux, post-pénitentiaires, il y a des œuvres des œuvres privées d'une certaine importance qui essaient de s'occuper de ces gens qui sont sortis de prison. On appelle une de ces œuvres, ça s'appelle Le Bon Larron, par une œuvre chrétienne, Le Bon Larron, par référence au Bon Larron qui était sur la croix avec Jésus-Christ. Mais je dois dire que ce sont des efforts limités et sporadiques, soit privés, soit des efforts publics, mais de la même manière qu'on n'arrive pas à terminer le chômage en France, de la même manière, on n'a pas de possibilité de trouver un emploi à toutes les personnes sortant de prison.
Donc avoir un emploi, c'est pas une condition pour bénéficier du bracelet électronique?
Pas nécessairement. C'est le juge d'application des peines qui décide, ou le juge d'instruction et le juge des libertés, si c'est une instruction provisoire, qui décide d'appliquer ou non le bracelet électronique. Il n'y a pas de condition. On peut être hébergé chez quelqu'un, chez un ami, dans sa famille, etc. Bon, il est évident que si quelqu'un est sous les ponts, le bracelet électronique n'est pas d'une très grande utilité. Mais le bracelet électronique est un moyen, il ne crée rien.
Oui.
Il permet de supprimer des détentions provisoires ou des détentions de longue durée ou d'aménager la sortie de prison. Mais en soi, le bracelet électronique n'est pas magique. C'est pas un anneau qu'on met au doigt et qui vous donne le bonheur. Il vous donne ni travail, ni épouse, ni paix familiale, ni des enfants sages, etc. Il vous donne rien de tel. Mais il vous permet de mener une vie apparemment libre avec une surveillance qui, d'ailleurs, peut être intéressante pour le condamné lui-même. Pas parce que si vous avez notamment des drogués, le bracelet électronique peut être un peu intéressant pour aider le drogué à se sortir de son vice.
Sur quels critères se fonde le juge d'application des peines pour attribuer un bracelet électronique ?
Eh bien, sur le dossier, qui comporte d'abord, il comporte les faits. On voit donc ce qui a été commis. Il y a des dossiers, il y a des renseignements de police sur chaque individu qui passe devant le tribunal. Devant les cours d'assises, il y a un curriculum vitae, c'est-à-dire on retrace la vie de l'individu avec des expertises médico-psychologiques, psychiatriques, etc. Il y a tout cela. Il y a le comportement en prison, qui est étudié également par des rapports des autorités pénitentiaires et aidés par des experts. Et le juge d'application des peines, à l'aide de tous ces éléments, essaye de prendre une décision qu'il estime sage, mais qu'il le sera ou qu'il ne sera pas.
Est-ce qu'il peut prendre en compte la dangerosité d'une personne ?
Oui, il doit en prendre compte, ah oui.
Et est-ce qu'on peut évaluer avec certitude la dangerosité d'une personne ?
Non, absolument pas. Vous avez des gens qui, après un crime, se sont totalement amendés et qui sont devenus... Bon, faisons pas du roman, mais il y a Jean Valjean, si vous voulez. Bon. Et puis vous avez l'affaire où la peine de mort n'a pas été appliquée. Vous savez, l'affaire de... d'Inter a plaidé l'affaire de Henri Michel, qui avait tué un petit enfant chez lui et qu'il avait gardé. Il a exécuté sa peine, on l'a sorti, et il a recommencé tranquillement après à faire des délits et des crimes, pas des crimes, des délits, et il a été remis en prison, et depuis, on n'en a plus entendu parler. Mais il est évident que l'expérience, là, a été malheureuse. Voilà quelqu'un qui avait fait 20 ans après un crime atroce, dans lequel l'opinion était pour la peine de mort. Il a fallu tout le talent et la conviction, plus encore que le talent de Badinter, pour l'empêcher d'être condamné à mort exécuté. Et en remerciement à la société, il a recommencé à faire des bêtises.
Et est-ce qu'on aurait pu l'éviter ? Est-ce qu'on aurait pu prévoir ?
Ah oui, on aurait pu prévoir qu'il allait refaire des bêtises, qui étaient d'ailleurs mineures, je dois dire, par rapport au crime qui était imputé. Et on aurait pu, mais là, on s'est trompé. Il y avait des rapports qui étaient favorables et on s'est trompé, car il dissimulait bien son jeu. En revanche, dans une affaire terrible, il y a un certain nombre d'années, l'affaire du curé du Ruf, qui a été célèbre, etc., qui n'a pas été condamné à la mort lui non plus, qui a été condamné à perpétuité. Au bout d'un certain nombre d'années, de 20 ans je crois, ou d'un peu plus, il a été libéré, il est entré dans un monastère, et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Ce qui fait que sa réinsertion, en forme d'expiation, paraissait réussie.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait ?
Le parcours ?
La rencontre ?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque ?
Sur Canal Académie.
Nous retrouvons avec André Damien, le président de l'Académie des sciences morales et politiques, sur le bracelet électronique mobile. Néanmoins, certaines récidives vont impliquer des meurtriers qui ont recommencé. Le juge d'application des peines doit se prononcer sur leur dangerosité avant de préconiser le bracelet électronique mobile. Mais on a du mal à estimer avec certitude la dangerosité d'une personne. Donc, comment faire ? Est-ce qu'on ne risque pas de laisser en prison des gens qui pourraient sortir et inversement de libérer des gens qui pourraient réitérer leur acte ?
Alors, c'est tout le mystère de l'âme humaine. On n'est pas dans la peau des gens. Et d'ailleurs, les gens, même s'ils sont de bonne foi, peuvent rechuter dans, comme le chrétien refait des péchés alors qu'il a décidé de ne plus en faire, eh bien, il peut faire des délits ou des crimes, etc. Si c'est des délits, c'est pas dramatique. Si c'est des crimes, c'est dramatique. Or, avec toute son expérience, tous les moyens psychiatriques, psychologiques dont on dispose aujourd'hui, toutes les enquêtes que l'on veut, on ne peut pas garantir que quelqu'un est définitivement guéri de la manie de faire un certain nombre de crimes. Donc, il y a une part d'incertitude. Alors, le bracelet électronique aide à une surveillance plus attentive, ce qui fait qu'on ne lâche pas dans la nature quelqu'un. Mais rien n'empêche que, sur un coup de folie, il enlève son bracelet électronique, qui est pas, encore une fois, c'est pas un boulet scellé par un sertissage au marteau. Hein. Il enlève son bracelet électronique et il fout le camp dans la nature où il commet des crimes ou des délits. Le bracelet électronique prévient, c'est-à-dire que on sait qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et par là même, on peut révoquer le bracelet électronique, on peut interroger la personne qui en était porteur, on peut regarder ce qu'il fait. Tandis que l'avantage de la prison, mais c'est un système inhumain, car comme vous l'avez fort bien dit, on peut se tromper dans l'autre sens. C'est-à-dire quelqu'un est décidé à ne jamais recommencer, et il va recommencer, et on le garde en prison éternellement, alors qu'en réalité, il est guéri. Mais nul ne peut, tant que la psychiatrie sera une science ou un art relatif et inexact, on ne peut pas garantir si quelqu'un est responsable et s'il a une vocation de récidiviste.
Est-ce que le bracelet électronique a un effet dissuasif avéré ? Parce que vous avez parlé d'enlever le bracelet pour s'enfuir dans la nature, mais rien n'empêche finalement de commettre une infraction en gardant le bracelet.
Ah ben oui, mais on sait où vous êtes là, alors il n'y a aucun problème. Quand c'est le GPS, c'est la voiture. Si vous faites une bêtise dans une voiture avec GPS, on sait très bien où vous êtes à chaque moment.
Mais si on imagine un criminel qui agit sur impulsion...
Il n'y a aucun problème, le bracelet électronique ne servira à rien. Donc, le bracelet électronique est un moyen d'aider la société d'une part, et le délinquant d'autre, ou le criminel d'autre part, à garder un contact et des obligations. Mais il ne peut pas se substituer ni à la volonté, ni à l'âme de celui qui le porte. Par là même, il reste capable de commettre des délits et des crimes. Il peut d'ailleurs en commettre même en prison, sur la personne de gardien ou sur la personne de co-détenu. Ça, c'est fréquent, hein. Donc vous avez toute une série de choses qui font partie de l'impondérable et qu'on ne peut absolument pas juger, estimer avec exactitude. Mais le bracelet électronique est une découverte récente. On est passé par le fixe, maintenant on est au portable. Le garde des Sceaux l'a adopté, fait adopter par le Parlement. Il a fait un discours d'inauguration qui est extrêmement riche, dans lequel il définit bien la portée du bracelet électronique mobile. Je pense qu'il y a une solution pour un certain nombre de personnes qui sont soit des petits délinquants, qui n'ont pas de raison de garder en prison, soit des prévenus qu'on met abusivement en prison alors qu'il serait aussi bien ailleurs, et que le bracelet est un moyen d'aider à une surveillance plus active. La prison, c'est quoi ? C'est, d'une part, une punition. Mais une punition au nom de quoi ? C'est assez complexe. L'aspect punition de la prison est en déclin. C'est l'aspect protection. Quand vous mettez quelqu'un en prison, vous l'empêchez de sortir, dans ces conditions, la détention provisoire ou la détention de longue durée sont des protections de la société. Alors, ces protections de la société, le bracelet électronique vous les apporte. Mais il vous les apporte dans la mesure de ses moyens. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous apporter un 100%, mais je disais tout à l'heure, pas non plus en prison, où vous n'avez pas 100% de cas de non pas d'amendement, mais de cas de silence du détenu par rapport à ses tentations personnelles. Il peut très bien faire la peau d'un gardien, faire la peau d'un co-détenu, faire la peau d'un avocat ou d'un visiteur de prison. Et tout cela fait partie des risques humains.
D'accord, donc il faut savoir accepter qu'il y ait une part de risque la société dans laquelle on vit.
Mais dans toute société, il y a des risques, et à part la peine de mort qui supprimait tout risque, mais qui était horrible, et qui était une peine d'un autre âge, que Badinter a bien fait de faire supprimer. Il y a tout un courant d'ailleurs qui s'y employait depuis longtemps. La société n'a pas le droit de donner la mort, même pour des raisons excellentes, mais à part la peine de mort qui est une peine d'élimination, eh bien, toutes les autres peines sont des peines qui visent un amendement, à une protection, et qui ne valent ce qu'elles valent. On s'évade des prisons, on peut commettre des crimes en prison, le bracelet électronique est un moyen d'avoir une surveillance de la personne, ce moyen est efficace, il n'est pas trop coûteux, il est bon, mais il n'est pas magique. N'est-ce pas ? C'est pas comme si on inversait le courant Big Brother et que la personne devienne totalement bonne alors qu'elle l'était pas. Non, c'est un moyen, un substitut à la prison grâce à des moyens techniques modernes qui sont le GPS, etc.
Alors parmi les deux objectifs affichés par le bracelet, c'est-à-dire assurer la réinsertion et prévenir la récidive, le deuxième objectif concernant la récidive est-il si important que ça ? C'est vrai que c'est un sujet très médiatique, mais est-ce que la probabilité de récidiver est importante ?
Alors le problème de la récidive est un problème très délicat parce que la récidive est liée surtout à l'environnement du sorti de prison quand il retrouve dans son milieu où les gens vont lui proposer à nouveau de commettre des crimes ou des délits qui sont pas des crimes, on commence par des délits qui peuvent être rémunérateurs, etc. Donc la récidive fait partie de toute la vie humaine de la vie de toute personne condamnée. Mais le bracelet électronique ne vous délivre pas de la récidive, mais il permet de diminuer les cas de récidive importants. Deuxièmement, la réinsertion, on se réinsère pas comme ça. Il faut une volonté de se réinsérer, il faut les moyens de se réinsérer, et pour l'instant, peut-être des transferts du coût des prisons vers les avantages sociaux permettraient une meilleure réinsertion. Mais ce n'est pas certain.
Mais est-ce que c'est prévu comme ça ?
C'est prévu comme ça dans le cadre d'un budget de la justice qui va augmenter chaque année, puisqu'on a un des budgets les plus bas. Mais grâce à Pascal Clément et à la politique du gouvernement actuel, les crédits pour les prisons ont singulièrement augmenté. Et au lieu de construire des prisons nouvelles, on peut très bien se servir du bracelet électronique et lui donner une vocation nouvelle plus précise. Donc tout ça, et puis en même temps l'accompagner par des mesures sociales qui ne sont ni impensables ni impossibles.
Quand vous dites qu'on a un des budgets les plus bas, c'est par rapport à d'autres pays européens, par rapport au nombre de prisonniers, au nombre d'établissements ?
Non, par rapport à tous les pays européens, nous avons un des budgets justice le plus bas. Nous avons actuellement, nous n'avons pas le nombre de magistrats que nous avions au XVIIIe siècle. C'est vous dire qu'on n'est pas très avantagé là, sur ce point. La police est mieux achalandée ou mieux fournie, mais la justice ne l'est pas énormément. Il y a beaucoup trop de dossiers chez chaque magistrat, et c'est la raison pour laquelle ils font un peu du travail en série. Or, le travail en série, le stacanovisme, n'a jamais été une preuve de bonne production. Et puis, vous avez ce que j'appelle les impondérables, parce que de la même manière que je dis que un détenu libéré peut récidiver, de la même manière, un juge peut se tromper. Bon, vous avez des juges qui se sont trompés dans l'affaire d'Outreau, mais ils sont beaucoup à s'être trompés. c'est pas seulement Fabrice Burgot, c'est toute une série de magistrats qui ont commis une erreur parce qu'ils sont partis sur une idée préconçue et que cette idée préconçue s'est révélée fausse. Ils ont fait confiance aux enfants, alors qu'il n'y a pas de raison de faire une confiance absolue dans les déclarations d'enfants. Ils ont fait confiance à une hystérie qui était Madame Badaoui, moyennant quoi, on a entraîné toute une série de braves gens dans des histoires à n'en plus finir, à dormir debout, qui avaient pris une certaine crédibilité quand vous pensez qu'on a cherché pendant des jours le corps d'un enfant mort. Tout ça, c'est l'influence des histoires belges qui se sont projetées dans l'imaginaire des gens et qui ont fait créer cette affaire. Il faut beaucoup se méfier des courants. C'est pas... Il est quand même très curieux que les délits ou les crimes arrivent par courant, par paquet. Actuellement, ce qui est à la mode, c'est la pédophilie. C'est pas à la mode, mais dès que vous avez ça, les journaux titrent 5 colonnes à la une, on monte des émissions de télévision, etc. On ne sait pas très bien où on va, on commet des erreurs.
Mais est-ce que la médiatisation n'incite pas davantage les gens aussi à porter plainte ?
Alors la médiatisation invite les gens à porter plainte, elle invite les gens à considérer comme gravissimes des choses dont ils n'ont pas la preuve, mais qui les terrifient et qui les rend hystériques. Et puis je dois dire que ça alimente aussi tous les cinglés qui se mettent à penser à cela et imaginer des romans. Madame Badaoui est, à mon avis, de ce type-là. Elle a inventé une histoire qui lui est venue et elle l'a augmentée, elle l'a garantie, elle l'a ornée, elle en a fait un grand gâteau alors qu'il n'y avait rien à l'origine.
Eh bien, monsieur Damien, merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Au revoir.